Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Ensemble, on part en vadrouille. Écoutez comment on vit ailleurs. Et ailleurs, comme ici, on abuse souvent des écrans. Grosse prise de conscience au Japon, pays des smartphones par excellence. Là-bas, les petits sont de plus en plus myopes et ils louchent. On sera aussi en Espagne, où les jeux en ligne sont devenus un fléau. Et plus généralement, la dépendance aux jeux est une vraie préoccupation. Je vous emmènerai en Italie rencontrer les sardines. C'est un mouvement citoyen, des petits poissons qui espèrent peser tous ensemble face au rouleau compresseur de l'extrême droite qui occupe seul le terrain politique. Les sardines sont de sortie aujourd'hui, à une semaine d'une élection régionale importante. On parlera aussi des deux visages de l'Arabie Saoudite, celui des réformes qui ouvre de nouveaux droits aux femmes, celui qui achète aussi à coups de millions de dollars des événements sportifs comme le rallye Dakar, et puis la face sombre d'un pays qui emprisonne ses opposants et exécute ses condamnés. Nicolas Caro nous fera découvrir un auteur chinois de science-fiction et Joseph, qui est toujours à Oman, nous expliquera pourquoi les gens là-bas pleurent leur sultan. Les carnets sont ouverts, direction Barcelone.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
En Espagne, la culture du jeu est ancienne, elle est fortement ancrée. Hein. Vous avez sans doute entendu parler notamment de la loterie de Noël qui est vieille de 200 ans. Mais au-delà de cette tradition plutôt sympathique, il y a une réalité beaucoup plus sombre avec des salles de jeu à chaque coin de rue, des machines à sous dans tous les bars, c'est autorisé chez nos voisins. Et finalement, une épidémie de ludopathie qui commence à préoccuper. 60% des Espagnols ont joué au moins une fois dans l'année à des jeux d'argent. Les salles de jeux, qu'on appelle les bingos, ont poussé comme des champignons, surtout dans les quartiers populaires. Et elles sont aujourd'hui dans le collimateur des autorités, car l'addiction s'étend chez les plus jeunes. Notre correspondant à Barcelone, Henri de la Guérie, est allé à la rencontre de joueurs accro, reportage.
Ouais, j'ai joué 20 euros. Comme la chance n'est pas avec moi, je sors. Donc voilà, ce soir, j'ai perdu 20 euros en 30 secondes.
Nous sommes en début de soirée. Abdel sort du bingo de la Rambla Poblano. Il a passé seulement 5 minutes dans cette salle de jeu. À Barcelone, il y en a une cinquantaine comme celle-ci. À l'intérieur, un bar avec des consommations trois fois moins chères qu'ailleurs, des écrans qui diffusent de la télé-réalité, une dizaine de machines à sous, une roulette et un espace dédié aux paris sportifs avec des matchs de foot en direct à la télé. Un peu partout, des lumières de toutes les couleurs et des panneaux lumineux. Abdel, ce jeune homme de 19 ans, enchaîne les petits boulots dans les hôtels et la restauration. En ce moment, il est au chômage. Il passe 4 fois par semaine au bingo et à chaque fois, il joue à la roulette.
Une fois, j'ai réussi à gagner 2000 euros. C'est mon record. Mais tu perds toujours plus que ce que tu gagnes. Quand je m'arrête et que j'y pense vraiment, je dois me l'avouer, je suis accro. Franchement, ça m'énerve. Quand tu perds des sommes comme 800 euros, il y a des gens qui survivent avec 800 euros par mois. Bah, t'es bien dégoûté.
Dans la salle, on croise surtout des jeunes en groupe et des personnes âgées seules. Abdel en a conscience, il devient de plus en plus dépendant. Il aimerait arrêter, mais il a du mal.
J'ai un ami qui a demandé à être interdit de salle de jeu. C'est simple, tu vas au commissariat de police, tu signes et ensuite tu as interdiction d'entrée dans n'importe quel casino d'Espagne.
Et toi, te faire interdire de jeu, tu y penses ?
Ouais, moi aussi. Même si en ce moment j'essaye d'arrêter et d'y aller petit à petit, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est ce que je recommande à tout le monde, ne jamais y mettre les pieds.
Même s'il est difficile d'avoir des chiffres, les experts estiment que c'est en Espagne qu'il y a le plus de joueurs dépendants en Europe. La situation est si grave, notamment chez les plus jeunes, que certains la comparent avec la vague d'héroïne qui a touché le pays au début des années 80. En 10 ans, le nombre de salles de jeu a triplé. En Espagne, leur chiffre d'affaires a augmenté de près de 400%. Dans son cabinet, Marta Nadal, psychologue spécialisée dans les addictions, reçoit de plus en plus de joueurs compulsifs. Le jeu fonctionne comme la drogue ou l'alcool.
C'est une addiction sans substance toxique. Mais c'en est une. Il y a des critères pour le définir ainsi. Et il y a tout d'abord une préoccupation pour le jeu. Trouver de l'argent pour jouer. Comment préparer la partie, avec qui on va jouer. Et puis ensuite, il y a les quantités d'argent dépensées. Il n'y a plus de contrôle de la situation, même si on croit le contraire. Il y a également l'état d'esprit, on devient plus irritable. Et puis, il y a aussi des conséquences au travail, dans la vie familiale et sociale. Et c'est une addiction, enfin, parce que ça fonctionne comme une échappatoire.
À Saint-Adria, dans une banlieue populaire, là où fleurissent les bingos, des joueurs dépendants se retrouvent chaque mercredi soir. Des ateliers de parole sont organisés par l'Association des joueurs anonymes.
Je m'appelle Josep, je suis un joueur compulsif, mais je suis abstinent depuis le 11 mars 2016. En fait, à partir du moment où j'ai eu l'âge d'avoir de l'argent, je me suis mis à jouer à tous les types de jeux. Les machines, les cartes, le poker ou le domino, dès qu'il y avait un jeu où on peut parier de l'argent, j'étais là.
Agent commercial, Josep a 53 ans. Sur son visage, rien ne permet d'imaginer que pendant plus de 30 ans, il a été dépendant.
Au fur et à mesure, je me rendais compte que je jouais beaucoup plus que ce que je souhaitais. Je consacrais plus d'argent au jeu que je ne le pouvais. Et pour obtenir de l'argent et jouer, eh bien, je devais mentir. Je devais trouver de l'argent coûte que coûte, au point de voler. Pour te donner une idée, je me suis même servi dans le portefeuille de ma mère et de ma femme. J'en suis même venu à casser la tirelire de mes enfants.
Comme tous les autres joueurs compulsifs, Josep sait qu'il n'est qu'en sursis, on ne guérit pas du jeu. Mais bientôt, il fêtera ses 4 ans d'abstinence. Voilà de quoi lui donner confiance. José, lui, reste beaucoup plus fragile alors qu'il a arrêté il y a déjà 3 ans. Le jeu lui a coûté son mariage et son travail.
À la fin, je jouais tous les jours. Mais je ne peux pas tout raconter. Ça fait quelques années que je suis ici et je préfère avoir une mauvaise mémoire pour ne pas réveiller le passé. J'ai du mal à en parler parce que le jeu m'a fait souffrir et a fait passer de très mauvais moments à ma famille.
Merci, pardon. José laisse échapper une larme, il préfère arrêter l'interview. Le jeu a détruit pour toujours une partie de sa vie. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Retour à Paris dans le studio d'Europe 1 et on reste un peu tout de même à Barcelone avec Henri qui est en ligne avec nous. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
La ludopathie, la dépendance au jeu est donc un phénomène de plus en plus inquiétant et les autorités commencent enfin à réagir.
Oui, il y a une prise de conscience. La mairie de Barcelone, par exemple, a interdit l'ouverture de toute nouvelle salle de jeu. La région de Madrid a voté un moratoire. La situation dans la capitale espagnole est d'ailleurs inquiétante au point que les habitants manifestent souvent dans les rues contre ces salles. Le gouvernement Sanchez présentera bientôt une loi pour réguler le secteur. On évoque l'interdiction d'ouvrir avant 22h, l'obligation également d'afficher des avertissements à l'entrée des établissements et puis une distance minimale de 700 mètres entre une salle de jeu et un centre scolaire devra être respecté.
Ça, c'est pour les salles et les casinos, mais quid des jeux en ligne ?
Alors là, c'est un vrai point noir. C'est quasi impossible de lutter contre le jeu sur Internet avec un téléphone. Ouais. Ben, on peut jouer n'importe où, à n'importe quelle heure. Les mineurs sont très friands de ces jeux sur le net. Des campagnes de sensibilisation sont donc lancées dans les écoles. Les parents sont informés des dangers des jeux en ligne. Mais la psychologue qu'on a entendue dans le reportage m'a fait part de son inquiétude. Les enfants développent une dépendance aux jeux en ligne de plus en plus tôt.
Ouais, et c'est un peu pareil ici. Et on va en parler dans un instant à propos du Japon où la situation est carrément dramatique pour les jeunes. Enfin, chez vous, Henri, il y a aussi les paris sportifs. C'est un marché en plein essor.
Oui, c'est l'autre source d'inquiétude ici. De plus en plus de jeunes sont dépendants à ce type de paris. Il faut dire que dans le football espagnol, 19 des 20 clubs de première division sont sponsorisés par des maisons de jeux. Et malheureusement, les stars comme Messi ou Benzema participent à des campagnes de pub pour ce genre d'activité. Ils sont prescripteurs pour une jeunesse fan de foot ici, comme vous le savez. À la radio, d'ailleurs, c'est un matraquage. Les jours de match, 50% des publicités viennent des maisons de jeux. Ces entreprises financent aussi des sites d'infos sportives, des chaînes YouTube dédiées au football. Un chiffre en 5 ans, le nombre d'annonces de paris sur les sites de sport a augmenté de 2000%. Wow. À la télévision, voilà, c'est beaucoup. Mais à la télévision, heureusement, les choses commencent tout juste à changer. Plusieurs chaînes publiques ont décidé de ne plus diffuser de publicité de paris en ligne.
Voilà, dépendance aux jeux en tout genre. C'est un gros sujet en Espagne. Voilà pourquoi on en parlait aujourd'hui dans les carnets. Merci beaucoup Henri de ce reportage. Et à très bientôt.
À bientôt Sophie.
Et vous allez donc l'entendre au Japon, c'est peut-être pire. Ce qui alerte là-bas, c'est la dépendance aux écrans. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer comme chaque dimanche sur Europe 1. Il est 13h13, on poursuit notre petit tour du monde des addictions aux jeux et on file au Japon à présent.
Et au Japon, l'addiction se concentre sur une petite chose rectangulaire et lumineuse qui sert à peu près à tout là-bas. Je parle des smartphones, bien entendu. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Le gros sujet chez vous, c'est l'addiction aux écrans en général, hein, au numérique. Donc, on va voir que ça prend des proportions délirantes. Pour faire simple, les Japonais adorent leur téléphone et c'est particulièrement le cas des jeunes. Mmh. Alors pour se mettre dans le bain, on écoute tout de suite quelques Tokyoïtes qui ont la vingtaine et à qui vous avez tendu le micro.
Je suis sur mon mobile à longueur de journée, même pendant les repas. Mais on est tous comme ça. Quand on sort entre copains, on se parle, on rigole, mais en fait, personne ne regarde jamais l'autre. Chacun est rivé à son téléphone et pianote comme un fou sur son clavier.
Mon smartphone, je ne pourrais pas m'en passer. Je l'utilise pendant des heures, chaque jour. Je fais tout avec lui. Je ne paye plus jamais en liquide ou par carte, par exemple. Uniquement par smartphone. Pour moi, mon téléphone, c'est ma vie.
Un jour, ma messagerie est tombée en panne. Ça a duré une semaine. Eh bien, j'en étais malade. J'étais super stressé. J'avais l'impression d'être complètement coupé du monde, de ne plus pouvoir communiquer avec personne. J'ai compris à ce moment-là que j'étais devenu un peu trop accro à mon smartphone et que j'avais intérêt à mieux gérer ça.
Bernard, est-ce que les Japonais ont conscience d'être accro à ce point ?
Ah oui, dans les sondages, 7 sur 10 reconnaissent être exagérément dépendants de leur téléphone. Et en ce qui concerne les jeunes, 1 sur 7, carrément, a un rapport au numérique qui est considéré comme problématique pour sa santé. Ça, c'est dû au fait qu'énormément d'ados nippons sont fans du social gaming, c'est-à-dire les jeux vidéo en ligne sur les réseaux sociaux et qui se doublent d'une messagerie gratuite instantanée. Les jeunes japonais sont les plus grands utilisateurs au monde, à la fois de ces messageries et de ces jeux sur téléphone. Et d'après une récente enquête, 1 sur 5 y jouent entre 3 et plus de 6 heures par jour.
6 heures par jour ?
En semaine, Sophie. Le samedi et le dimanche, c'est encore plus. Certains sont si accros au gaming qu'ils finissent par en tomber malades. Comme ces deux jeunes gens que je vous propose d'écouter et à qui il a fallu des années pour guérir de leur addiction.
Il m'est arrivé de jouer non-stop pendant 5 jours entiers, sans manger ni dormir. C'était vraiment plus fort que moi. Quand on essayait de m'empêcher de jouer, je devenais dingue. C'était comme si le monde s'effondrait.
J'étais si accro que j'en étais arrivé à ne plus boire ni manger. Comme ça, je ne devais pas m'interrompre de jouer pour aller aux toilettes. Je sentais que je déconnais. Hein. J'étais bien conscient d'exagérer, mais il n'y avait rien à faire. Moins jouer, ça m'était absolument impossible. Quand j'essayais d'interrompre une partie, eh bien, j'avais juste l'impression de mourir. Jouer sans jamais m'arrêter, il n'y avait que ça qui comptait pour moi. J'étais complètement dominé par le jeu.
Vu la situation, Bernard, on imagine qu'il y a des institutions qui prennent en charge ces addictions.
Oui, mais elles ne sont pas assez nombreuses, donc les listes d'attente sont énormes. Pour vous donner une idée, la dernière fois qu'une place s'est libérée dans le centre spécialisé le plus connu du pays, il traite 2000 patients par an, eh bien, en moins de 2 heures, il a reçu 300 coups de fil de parents qui voulaient y hospitaliser leur enfant.
Et cette smartphone mania commence aussi à poser des problèmes de santé justement à de très jeunes enfants. Hein.
Oui, parce qu'ici, Sophie, le smartphone, ça commence dès le berceau. 20% des bébés de moins d'1 an l'utilisent déjà quotidiennement.
Oh non, au secours, 20%. Tout ça, évidemment, ça a des conséquences très concrètes aussi sur les yeux de tous ces jeunes.
Oui, figurez-vous qu'à force de passer tellement de temps sur les écrans, les Japonais sont en train de devenir un peuple de myopes et de loucheurs. À Tokyo, par exemple, à l'école primaire, 7 enfants sur 10 sont déjà myopes. Parce que d'après les spécialistes, ils ne regardent pas assez souvent au loin, tellement ils sont rivés continuellement à leur téléphone. Et d'après les ophtalmos, de plus en plus d'enfants développent aussi un strabisme convergent aigu. Car ils regardent leur smartphone de beaucoup trop près. Leurs pupilles se focalisant sans cesse sur ce petit écran, ils finissent par se mettre à loucher. Le problème a pris une telle ampleur qu'ici, la Sécu en est venue à rembourser, tenez-vous bien, les injections de Botox dans les muscles oculaires de ces jeunes qui louchent. Ça atténue un peu le problème. Écoutez, ces 3 jeunes que j'ai croisés, ils sont tellement accros au portable qu'ils ont fini par devoir porter des lunettes.
Après quelques heures, ma vue se troublait. Puis je commençais à voir tout en double. Et à la fin, j'avais la tête qui tournait.
Franchement, j'exagérais. Le week-end, j'étais plus de 8 heures par jour sur mon portable.
Moi, c'est pareil, je peux pas m'en passer.
Bernard, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour réduire cet usage exagéré du téléphone portable ?
Oui, je vous donne un exemple. Au Japon, tous les opérateurs de téléphonie mobile proposent un dispositif qui permet de bloquer à distance le smartphone de son enfant quand il a atteint le quota d'heures d'utilisation qu'on lui a fixé. Ouais. Ces gadgets font fureur ici. Et il y a une tendance qui est en train de se développer. De plus en plus de gens se lassent d'être connectés en permanence. Ils finissent donc par renoncer au smartphone et en reviennent au bon vieux téléphone à clapet. Vous savez, ce mobile qui permet juste de passer des appels ou d'échanger des SMS. Eh bien, ce modèle se vend comme des petits pains ici. Et c'est peut-être qu'un début dans les sondages, 40% des jeunes japonais n'excluent pas d'en acheter un.
Ah bah ça va leur changer la vie, hein, parce que je crois que vous faites à peu près tout avec votre téléphone, votre smartphone, y compris payé, etc. Au Japon, c'est vraiment un outil indispensable. Enfin, le grand retour du téléphone à clapet, on n'aurait pas forcément imaginé ça au pays des technologies, mais moi j'aime bien l'idée. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un signe de la prise de conscience du problème énorme que représentent les écrans et l'addiction aux écrans au Japon. Merci beaucoup Bernard pour ce coup de projecteur. Et j'ajoute qu'un enfant sur cinq, m'avez-vous dit, est persuadé que ses parents s'intéressent moins à lui qu'à leur smartphone. Ce qui est quand même effrayant aussi hein, comme statistique.
Ouais, et ça en dit long sur l'intrusion du smartphone dans la vie de famille au Japon. Et puis peut-être aussi sur les difficultés de communication entre parents et enfants.
Merci beaucoup Bernard, à bientôt.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h22, une petite pause littéraire. C'est le moment d'ouvrir un livre dans le monde avec vous Sophie Larmoyer et Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Grâce à vous, on voyage autrement à travers les romans étrangers. Alors ça faisait longtemps, vous nous emmenez en Chine cette semaine.
Avec Liu Cixin, il publie chez Actes Sud « Terre errante ». Vous allez voir, ça commence gaiement. « Je suis né à la fin de l'ère du freinage. La Terre venait tout juste d'arrêter de tourner. »
Ah oui, c'est un roman apocalyptique.
Alors pas vraiment, c'est plutôt de la science-fiction. En fait, la Terre s'est arrêtée de tourner, mais c'est volontaire. C'est l'humanité qui a décidé de stopper sa course. Résultat, il n'y a plus ni jour, ni nuit, ni saison, ni rien.
Ah ouais, forcément, mais pourquoi l'humanité prendrait-elle une telle décision ?
Parce que d'après les calculs des scientifiques, le Soleil ne devrait pas tarder à devenir une géante rouge, c'est-à-dire une immense masse d'énergie qui aspirera tout, y compris la Terre. Une seule solution, se tirer d'ici. Et donc, les nations de la Terre s'entendent enfin pour concevoir un plan, en l'occurrence, transformer la planète en un gigantesque vaisseau spatial propulsé par 12 000 moteurs d'une taille démesurée.
Pour aller où ?
Pour chercher une autre étoile, moins menaçante. Alors, le gros défaut, c'est d'abord la chaleur dégagée par ces moteurs. Dans l'hémisphère nord, il fait dans les 70-80 degrés. Et quand il pleut, l'eau est à la même température. Donc, il faut porter une combinaison réfrigérante pour sortir. Forcément, ces moteurs entraînent aussi des bouleversements climatiques intenses. Il y a régulièrement des tempêtes énormes. Bonne ambiance. Mais le narrateur, lui, n'a jamais rien connu d'autre. Alors bon, il est né alors que la Terre était déjà dans cet état. Je cite « Pour ma génération née dans l'hémisphère nord, tous ces phénomènes étaient parfaitement naturels. Aussi naturels que la présence dans le ciel du soleil, des étoiles ou de la lune, pour nos ancêtres ayant vécu l'avant-ère du freinage. Cette période antique de l'histoire humaine que nous désignions par ère primosolaire et qui avait dû être une époque exaltante. »
Et ensuite, le voyage de la planète Terre, donc. Qui est cet auteur ?
Alors, Liu Cixin n'est pas encore hyper connu en France, mais sa renommée est mondiale. Écoutez Emmanuel Tricoteau, l'éditeur du livre.
Liu Cixin, c'est un auteur de science-fiction chinois que nous avons publié, on a commencé à le publier il y a 3 ans maintenant, mais pour des textes qui sont en fait beaucoup plus anciens, qui ont atteint une renommée absolument immense en Chine. Il a remporté 9 fois les Galaxy Awards, qui sont un des prix les plus importants de science-fiction en Chine. Et il a commencé à être traduit un peu partout, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et c'est au moment où sa trilogie du problème à trois corps a commencé à être disponible aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon que l'auteur a vraiment acquis une renommée mondiale.
Mais un auteur de science-fiction chinois, Nicolas, ça veut dire qu'il fait partie d'une école d'écriture typiquement chinoise ?
Eh ben, c'est ce que je pensais, mais non. En fait, il fait partie du pays science-fiction, si vous voulez. Sa culture, c'est la SF.
Lui se décrit comme un auteur de science-fiction. C'est-à-dire que quand il a commencé à écrire, c'était pour écrire de la science-fiction. Il décrit ses influences comme des influences occidentales. C'est-à-dire qu'on lui a demandé plusieurs fois s'il y avait des spécificités de la science-fiction chinoise, si on pouvait retrouver du confucianisme dans ses textes, des influences de la culture chinoise. Il lui a toujours dit que pas spécialement. Il est un auteur de science-fiction et ce qu'il cherche à faire, ça n'est pas de déguiser des sortes de messages sur l'état de la société chinoise actuelle, c'est vraiment de construire des mondes. Il se décrit vraiment comme un auteur de l'imaginaire.
Voilà, un auteur de l'imaginaire, mais chinois. Liu Cixin, donc, Terre errante, c'est publié chez Actes Sud, traducteur.
Traduction de Gwenaël Gaffric.
Ben voilà, merci beaucoup Nicolas. On vous retrouve tout à l'heure pour La Voix est libre.
Ça marche.
Et nous on va en Italie, je vais vous présenter un banc de sardines. C'est un mouvement politique citoyen. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et on prend la direction de l'Italie aujourd'hui où des milliers de sardines doivent se réunir cet après-midi pour une mobilisation nationale, Sophie Larmoyer.
Les sardines, c'est ce nouveau mouvement citoyen né il y a 2 mois pour faire barrage aux populistes et en particulier à Matteo Salvini, le leader de l'extrême droite italienne, toujours plébiscité dans les sondages. Manif après manif, les sardines sont devenues un véritable phénomène qui a conquis toute l'Italie. Mais l'idée et le premier banc de sardines sont d'abord nés localement à Bologne, dans la région de l'Émilie-Romagne. C'est dans le centre de la botte et notre correspondante Blandine Hugonnet y est allée rencontrer les sardines. Reportage.
En plein centre de Bologne, la Piazza Maggiore, une grande place entourée d'arcades médiévales. C'est là que tout a commencé le 14 novembre dernier. Un soir de fête, se souvient la jeune sardine Alessandra.
C'était vraiment beau, surtout que tout est né sur Facebook. On ne savait pas combien de personnes seraient là et finalement la place était pleine à craquer en 2 secondes. C'était la fête et en même temps on voulait se faire entendre face au phénomène Salvini qui fait toujours campagne avec les mêmes slogans. Les Italiens d'abord, combattre l'immigration, cette idéologie qu'il déverse partout.
Pancarte en main, de poissons fait maison, une marée de milliers de jeunes bolognais avait envahi cette place, comme le trentenaire Eugenio, sardine de la première heure.
Moi, j'ai tout de suite adhéré parce que c'est un mouvement politique, mais non partisan, c'est-à-dire sans étiquette, et qui veut juste envoyer un message fort, celui de dire qu'on nous raconte n'importe quoi sur le fait que les idées de l'extrême droite et de Salvini sont celles qui prédominent ici. C'est faux, les sardines en sont la preuve.
Un mouvement citoyen contre les discours de haine, c'est ce qui a plu aussi à Cécilia, une étudiante de Bologne que je rencontre en pleine séance de couture.
Alors je suis en train de couper ce tissu en forme de sardine. Ensuite, elle sera cousue sur les t-shirts qu'on vend pour les manifs des sardines. C'est ma façon de soutenir le mouvement parce que je pense que, on va dire, c'est un bon moyen de réveiller un peu les esprits, surtout nous les jeunes.
Aujourd'hui, cet atelier sardine dans une école transformée en petite usine. Autour des bénévoles, une dizaine de réfugiés s'activent aussi sur les machines à coudre. Objectif de Mamadou qui vient de Côte d'Ivoire, confectionner des milliers de peluches en forme de poisson.
Ça, ce sont les sardines. Tu vois la tête tissu européen, la corde tissu africain. Non, on coud ça ici.
On peut dire que dans un mois, on a plus ou moins cousu 6000 sardines, que c'était les premiers objectifs qu'on avait.
Maddalena est la présidente de cette association qui est devenue en quelque sorte le fournisseur officiel des symboliques sardines en tissu.
Les sardines ont fait pour rassembler les gens, pour aller contre le racisme, contre la haine. Ça nous a vraiment touchés. Et vu que beaucoup de gens sont arrivés ici à travers la mer, on peut dire que pour nous, c'est vraiment un symbole de pouvoir rejoindre un port et de vie, de paix, d'une deuxième possibilité.
Je m'appelle Mattia Sartori, j'ai 32 ans et je suis économiste et éducateur.
Mattia Sartori vient d'arriver dans la fabrique de sardines cousues. C'est dans la tête de ce jeune citoyen de Bologne qu'a germé l'idée d'un nouveau mouvement. Il y a 2 mois, il a eu un déclic.
Une nuit, je n'arrivais pas à dormir, je lisais des articles, je faisais un peu le point. Et là, j'ai appelé mes amis et j'ai dit, demain, faut qu'on parle, je viens d'avoir une idée. En fait, on est dans une période en Italie où on a l'impression qu'il n'y a plus d'alternative à Salvini et à la propagande populiste. Du coup, quand il est passé ici, à Bologne, avec 3 amis, on a décidé de proposer une nouvelle voie et on a invité les gens à aller s'exprimer dans la rue.
Et depuis, on a
eu un 500 000 de personnes dans une centaine de villes de la Sicile, au Piémont, et tout ça spontanément.
Offrir une alternative à la puissante extrême droite, mais aussi donner vie à une action collective. En Italie, renchérit Andrea, lui aussi inventeur des sardines.
Être serré comme des sardines. La proximité, même physique, ça nous semblait important parce que s'enfermer chez nous, à cliquer sur nos portables, c'est pas de la participation, c'est de la solitude. Manifester, c'est lancer un appel collectif à la démocratie, à la diversité, à la liberté. Et c'est aussi l'expression d'une urgence. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas la tâche des sardines de faire des propositions politiques. Ça, c'est le boulot des politiques. Le boulot des citoyens, c'est de rester informés pour ne pas être manipulés. Les sardines sont la démonstration concrète que les Italiens attentifs et actifs existent bien ici et qu'en plus ils sont prêts à manifester.
Inconnu, désigné tout à coup leader d'un mouvement d'ampleur nationale, les jeunes fondateurs doivent encore définir leur avenir.
Non abbiamo l'intenzione
On n'a pas l'intention de constituer un parti politique, mais les Sardines peuvent constituer un groupe de pression sur la politique. En fait, les Sardines, d'une certaine façon, voudraient reconstruire un pont entre la société civile et les politiques qui doivent la représenter. Je crois qu'il y a eu un court-circuit que les Sardines sont peut-être en train de réparer.
C'est crevant, mais c'est beau aussi parce qu'on réalise qu'on a réveillé une énergie qui était complètement étouffée il y a à peine 2 mois.
Une énergie que les chefs des Sardines mobilisent donc ce dimanche. Elles sont attendues par milliers cet après-midi à Bologne. Leur dernière chance de faire barrage à Matteo Salvini avant la prochaine échéance électorale. Bologne, Blandine Gonnet, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et en ligne avec Blandine Hugonnet qui est rentrée à Rome. Bonjour Blandine.
Bonjour Sophie.
Il y a donc des élections régionales dans une semaine en Émilie-Romagne. Pourquoi est-ce un test important pour les Sardines anti-Salvini?
Bien parce qu'une victoire du parti de Matteo Salvini la semaine prochaine, ça serait une claque pour ce tout jeune mouvement qui a fait le pari au départ de convaincre les 60% d'abstentionnistes de la région d'aller voter. Les Sardines veulent empêcher que l'Émilie-Romagne, surnommée Émilie la Rouge, dirigée par la gauche depuis un demi-siècle, ne passe aux mains de l'extrême droite. D'autant que selon les sondages, hein, la Ligue de Salvini a de réelles chances de l'emporter face aux démocrates de gauche. Même s'il s'agit d'un scrutin local, Matteo Salvini en a fait un enjeu national. En gros, il estime que s'il gagne, la coalition au pouvoir entre les démocrates et le mouvement 5 étoiles ne sera plus légitime pour diriger le pays.
Et les Sardines ne comptent pas le laisser faire. C'est un mouvement d'abord local donc, mais qui a tout de suite fait tache d'huile dans toute l'Italie.
Oui, leur succès a été immédiat. Depuis 2 mois, ici, il y a presque une manif de Sardines par jour. Leurs porte-paroles sont sur tous les plateaux de télévision. Il a donc fallu donner une ligne directrice. Un programme en 6 points a été présenté. L'idée générale, c'est de remettre la politique sur le droit chemin. En résumé, la jeunesse italienne rêve de dirigeants travailleurs, polis, responsables. C'est symptomatique d'un paysage politique en crise en Italie.
Mais sous quelle forme, alors, les Sardines veulent-elles faire de la politique? Est-ce que le mouvement se structure?
Alors les fondateurs le répètent souvent, ils ne veulent pas créer un parti politique de Sardines. Mais du coup, combien de temps ce type de mouvement citoyen peut durer en Italie? J'ai posé la question à la politologue Sofia Ventura de l'Université de Bologne. Elle est plutôt réservée.
La société civile italienne est très hétérogène, pas comme en France. Une chose comme les gilets jaunes, ça serait vraiment difficile à imaginer en Italie. Et donc là, la question aujourd'hui, c'est est-ce que les Sardines sont un peu comme i girotondi, qui manifestaient contre Berlusconi, qui n'a rien qui a duré. Donc, mais il y a une telle déstructuration du débat politique que tout est possible.
Voilà, il faut s'attendre à tout en Italie. Rendez-vous en tout cas en mars prochain. Le mouvement des Sardines a annoncé son premier congrès national.
Alors, on surveillera leur évolution pour voir si les bancs de petits poissons se multiplient. Et dès dimanche prochain, vous suivrez pour Europe 1 l'élection en Émilie-Romagne. Merci beaucoup, Blandine, de nous avoir présenté les Sardines. À très vite dans les carnets.
Et à très bientôt, Sophie.
À suivre, le Rallye Dakar s'est terminé vendredi en Arabie Saoudite. Pour la première fois, un choix qui ne met pas tout le monde d'accord.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, écoutez le monde changer sur Europe 1. Après plus de 7800 km de course, la 42e édition du Rallye Dakar s'est terminée hier en Arabie Saoudite. Et c'est de ce pays qu'on parle maintenant avec vous, Sophie Larmoyer. Après 29 ans en Afrique, puis 10 ans en Amérique du Sud, le Rallye Dakar a donc choisi l'Arabie Saoudite pour perpétuer sa légende. L'organisateur a signé pour 5 ans avec ce royaume qu'on dit à la fois en pleine mutation et qui reste une dictature lorsqu'on y examine le respect des droits humains. C'est ce paradoxe qu'on regarde ensemble aujourd'hui, notamment avec notre invitée, la journaliste qui connaît le mieux le pays pour y avoir vécu et travaillé pendant 12 ans. Bonjour Clarence Rodriguez.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous retrouver, les auditeurs d'Europe 1 et des Carnets du Monde vous connaissent bien. Regardons la face pile de l'Arabie Saoudite, celle d'un pays qui évolue doucement mais sûrement, où certaines femmes conduisent désormais, où elles sont incitées à travailler dans certains secteurs, même si le tutorat des hommes existe toujours et limite le droit des femmes, le quotidien a réellement changé pour certaines d'entre elles, comme le montre ce reportage dans un grand hôtel de la ville portuaire de Jeddah. Il est signé Angélique Ferrat.
À l'hôtel Mövenpick de Jeddah, vous trouverez dans les cuisines une femme, une chef cuisinière.
Elle est la seule femme à ce poste dans les hôtels Mövenpick du pays. Ce matin-là, Riyam Jazar prépare un plat saoudien pour le déjeuner. Cette petite bonne femme d'1m55 circule entre ses collègues hommes sans hésitation, même si au début, elle appréhendait.
Quand je me tiens au buffet dans le restaurant, et les gens me demandent si je suis saoudienne. Ils sont en général très heureux quand je leur dis oui. Ils se disent heureux pour moi. Je ne m'attendais pas à ça.
Elle rêvait de devenir chef. Cela lui semblait impensable il y a 18 mois encore. Alors elle faisait le traiteur à la maison pour des fêtes privées. Puis, sans trop y croire, elle a répondu à une petite annonce encouragée par les réformes en cours.
Les femmes devraient toutes sortir de leur maison. Il ne faut pas rester à la maison, mais sortir et construire sa vie.
Quelques étages plus bas, au rez-de-chaussée, autre surprise, deux jeunes femmes saoudiennes sont à la réception de l'hôtel, impensable il y a encore 2 ans. Noufassan, 22 ans, n'a pas fréquenté l'université. Elle devait trouver un travail. Ce jour-là, elle parle normalement avec un client, puis replace une mèche de cheveux. Des situations banales, mais inédites en Arabie Saoudite.
Pour les Saoudiennes, jusque-là, c'était impossible, car ça veut dire montrer son visage et interagir avec des hommes.
La jeune femme brise une autre règle. Elle ne porte pas de foulard couvrant la tête, juste un léger voile.
Je ne porte pas le hijab. Il y a des gens qui disent, c'est quoi ça? Pourquoi elle fait ça? Moi, ça m'est égal. Je ne porte pas le hijab et c'est OK avec mes parents. Quand vous allez dans les centres commerciaux aujourd'hui, vous voyez des femmes qui ne portent pas le foulard ou ne portent pas l'abaya, cette longue robe noire traditionnelle. Elles portent des abayas de couleur, elles se maquillent.
Là encore, l'évolution est récente. Le prince Mohammed bin Salman a créé la surprise il y a 2 ans en déclarant que le foulard et l'abaya n'étaient aucunement obligatoires dans l'islam. La seconde femme réceptionniste du Mövenpick, Noura Al Mabrouk, affiche, elle, un look plus traditionnel. Elle est voilée, elle se permet une abaya blanche et noire. Noura est persuadée que même les plus critiques finiront par accepter cette nouvelle liberté. Elle en veut pour preuve l'attitude de son père, un bédouin de Médine qui ne voyait pas d'un bon œil que sa fille travaille dans un hôtel. Il lui a fallu plusieurs mois pour le convaincre.
Au départ, je lui ai dit que je travaillerais dans les bureaux. Après, je lui ai dit que je voulais travailler à la réception pour améliorer mes opportunités de carrière. Mais il a dit oui. C'était la même chose pour le permis de conduire. Au début, il ne voulait pas. Puis finalement, il a accepté. Il m'a aidé. Il a même acheté une voiture. Je peux dire qu'il a beaucoup évolué.
Les barrières à l'emploi des femmes sont petit à petit éliminées. Elles n'ont plus besoin de l'accord de leur tuteur masculin pour voyager ou travailler. Reste à convaincre leur famille. Selon la Banque mondiale, le taux d'activité des femmes est passé de 18% en 2017 à 23% en 2018. À Jeddah, Angélique Ferrat, Europe 1.
Voilà les regards de Saoudiennes dont les vies ont changé, résultat des réformes engagées dans le royaume, hein, notamment ce qu'on appelle là-bas la vision 2030 du prince héritier Mohammed Ben Salman. Clarence Rodriguez, vous étiez parmi les premières dans les carnets du monde, notamment à saluer la volonté de changement. Mais j'ai l'impression que vous en êtes un peu revenu face aux contradictions du royaume saoudien.
Oui, des contradictions. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup cru justement à l'ouverture de ce pays, parce qu'on en parle beaucoup, on dit ouverture, ouverture. Sauf qu'il faut savoir faire la différence entre un vasistas et une véritable ouverture, si vous voulez. Moi, je suis un peu déçue parce que depuis que le prince héritier Mohammed bin Salman a emprisonné ces femmes qui militaient pour le droit de conduire, elles ont été emprisonnées 1 mois avant l'autorisation, si vous voulez, de conduire.
Elles sont toujours en prison. Il y a plusieurs militantes qui sont toujours en prison.
Dans Loujane Al-Atloul, on en parle beaucoup, qui a été torturée d'ailleurs. Ce sont des femmes qui sont les pionnières, en fait. Ce sont elles qui ont permis à d'autres donc, de conduire. Alors, c'est pour ça que je suis un peu déçue. C'est que je croyais vraiment, mais sous le règne, si vous voulez, feu roi Abdallah, où il y a eu un peu cette émancipation pour les femmes, du bout des lèvres. Mais là, on se rend compte qu'il y a une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire que les femmes sont devenues un enjeu politique. On s'en sert pour la communication, on s'en sert pour redorer l'image ternie de l'Arabie saoudite. L'Arabie Saoudite exerce ce qu'on appelle la diplomatie sportive et culturelle. Elle paye parfois très cher pour faire venir des sportifs célèbres, pour faire venir des artistes. Elle s'achète en fait une image.
Elle s'achète une image et puis je pense aussi que l'Arabie Saoudite veut singer donc, son cousin qatari.
Le Qatar, oui.
Et donc on passe par l'organisation d'exhibitions de tennis, de boxe, des tournois des combats de boxe, le Dakar par exemple. Donc en fait, on voit bien que tout ça, si vous voulez, c'est sur du sable mouvant. Parce qu'en fait, il n'y a pas une véritable politique derrière qui tient la route, si je puis dire. On se sert, si vous voulez, du sport. Mais vous savez, le sport, quand même, ça incarne des valeurs. Ce sont des valeurs nobles, de loyauté notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que MBS, Mohamed Bin Salman, incarne véritablement ces valeurs ?
À propos du Dakar, du rallye Dakar que vous venez de citer, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une femme que vous connaissez bien et qui a été assez chamboulée que le Dakar soit justement organisé dans le désert saoudien. Elle s'appelle Carole Abeska et en février 2007, elle, son mari, ses deux enfants et des amis ont été la cible d'une fusillade, d'une tuerie dans le désert saoudien où ils effectuent un périple en 4x4. Quatre hommes sont morts, dont un ado de 17 ans et dont le mari de Carole Abeska. On l'écoute.
Dès que j'ai su que le Dakar allait se dérouler en Arabie Saoudite, ça a été assez difficile à vivre pour moi. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait, mais mon corps avait un peu de mal à accepter tout ça. Tout remonte, la blessure est plus forte. C'est un terrain de jeu, là où, pour nous, ça a été le basculement de notre vie, quoi. Et c'est assez douloureux.
Vous auriez voulu qu'il y ait un geste, une parole, quelque chose ?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui aurait pu vous...
J'avoue qu'un hommage, effectivement, je pense, nous aurait fait du bien. Voilà, les respecter, enfin, respecter ses morts, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. On se bat depuis 13 ans maintenant pour obtenir réparation. On attend une reconnaissance de nos droits. Et effectivement, enfin, cette course là au milieu, ça remue voilà, toute cette souffrance, quoi.
Je précise que votre mari était un fan du Dakar en plus.
Oui, depuis très très jeune, il avait ses posters dans sa chambre, il faisait beaucoup de motos. C'est d'autant plus difficile de voir effectivement des gens passer sur les traces et en fait, c'est comme s'il n'existait pas, quoi. Il n'avait jamais existé.
Voilà, pas d'hommage donc cette année sur le Dakar à Jean-Claude Abeska et les trois autres Français tués à Madain Salé, là où est passée la quatrième étape du rallye cette année, mais peut-être l'an prochain, mieux vaut tard que jamais, on lance une perche. Vous parlez d'hypocrisie, Clarence Rodriguez, on peut rappeler un chiffre éloquent selon l'organisation des droits de l'homme britannique Reprieve. 2019 a été une année record pour ce qui est de l'application de la peine de mort en Arabie Saoudite, elle a compté 184 exécutions dans le royaume.
Et puis, il faut quand même ne pas oublier que le 2 octobre 2018, vous avez quand même Jamal Khashoggi qui a été exécuté, je veux dire...
Et découpé, dépecé
au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Oui, absolument. On oublie. Vous voyez, on a l'impression que voilà, on en a beaucoup parlé, puis on n'en parle plus. Je veux dire, et cette guerre provoquée au Yémen, où vous avez, ça va faire 6 ans, vous avez de nombreux enfants atteints de choléra, des enfants qui meurent. Donc, si vous voulez, encore une fois, moi, ça me fait beaucoup sourire que l'on ait demandé à l'Arabie Saoudite de présider le G20, par exemple. Donc, on demande à un pays comme l'Arabie Saoudite, où il y a des exécutions, où les gens qui contestent de façon pacifique sont jetés en prison, présider donc le G20.
Vous demandez que les deux yeux soient ouverts sur ce pays ?
Absolument, et ne pas se leurrer surtout.
Merci beaucoup Clarence Rodriguez pour cet éclairage. Je rappelle vos livres, Révolution sous le voile, publié chez First, et Arabie Saoudite 3.0 chez Éric Bonnier. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans les carnets du
monde. Avec plaisir, merci.
À suivre, on va retrouver Joseph Chovanec. Il est toujours à Oman, un petit état qui a vécu lui aussi une révolution ces derniers jours avec la perte de son sultan qui était une boussole.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h51, Sophie Larmoyer. Que diriez-vous de faire un petit tour en Autistan ? C'est le moment de rejoindre Joseph Chovanec, toujours en vadrouille.
Philosophe, autiste Asperger et voyageur infatigable, effectivement, Joseph est en ligne avec nous. Bonjour l'ami.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes toujours dans le sultanat d'Oman, où règne une ambiance très particulière depuis une semaine. Racontez-nous, vous êtes aux premières loges.
Oui, Sophie, vous vous souvenez sans doute, il y a longtemps, nous avions fait allusion à la perception différente de la pluie en Europe et dans les pays désertiques. Mmh. En Europe, pour beaucoup de gens, la pluie, c'est une sorte de gêne dont on attend la fin pour profiter à nouveau de ce que l'on appelle le, entre guillemets, beau temps. Mais dans le désert, la pluie, c'est une bénédiction. Mmh. Mieux encore, c'est un signe du destin, un signe du ciel. Par exemple, un mariage pendant lequel il se met à pleuvoir, c'est assurément un mariage heureux.
Signe du destin, car elle est rarissime, la pluie, évidemment.
Oui, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Pendant toutes les années où je me suis rendu dans le même village du désert d'Oman, Sophie, pas une seule fois je n'y ai vu la pluie. Alors même que je m'y rends en janvier, ce qui est théoriquement la période la plus favorable. Donc toute cette discussion sur la pluie restait assez théorique. Sauf que, voilà, plus rien n'est comme avant. Hein. Sans mauvais jeu de mots, le ciel est tombé sur la tête de mes amis omanais ces derniers jours. En effet, après un demi-siècle sur le trône, le sultan d'Oman, Qaboos ibn Saïd ibn Taimur le Grand, est mort.
Ouais, on ne se rend pas bien compte d'ici à quel point cette disparition est un séisme à Oman.
Ah oui, un séisme de première magnitude. Les Omanais n'ont jamais connu d'autre sultan que lui. Et tout se faisait en son nom. Son portrait immuable avait fini par faire un avec les montagnes du désert. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'un jour il décède. On avait fini par penser qu'il était immortel. En un demi-siècle de règne, c'est lui qui a bâti un pays moderne et paisible. Lorsqu'il était monté sur le trône en 1970, il n'y avait pas 10 kilomètres de route pavée dans tout le pays. Wow. Hein, et trois écoles à tout casser. Mmh. Et c'est donc par son action qu'on peut avoir ce pays moderne et paisible que l'on sait.
Sa mort a été annoncée il y a 8 jours, samedi à l'aube. Comment les gens ont-ils réagi autour de vous ?
Il se trouve, Sophie, que le samedi 11 janvier au matin, j'étais à Salalah. C'est la grande ville du sud où d'ailleurs le sultan était né. Or, les rues étaient vides, les gens en état de choc. Je me suis retrouvé assis à côté d'un monsieur omanais qui écoutait la radio. Il n'y avait pas vraiment d'émission, c'était des messages de deuil, des prières. Mmh. Et puis soudain, une annonce officielle. Le speaker, d'une voix lente, après toutes sortes de pirouettes rhétoriques et dans un arabe éblouissant, avait fini par dire que Haytham ibn Tariq ibn Taimur al-Saïd était le nouveau sultan d'Oman. Alors, grande émotion de mon voisin omanais qui se mit à sangloter.
À cause du chamboulement de la mort de l'ancien sultan ?
Oui, j'imagine, Sophie, l'émotion liée au bouleversement politique, mais aussi autre chose. En regardant la fenêtre, j'ai vite compris pourquoi mon voisin omanais pleurait. C'est que quasiment au même moment où était annoncé le nouveau sultan, la vitre s'était couverte de gouttes de pluie. Et la pluie s'est mise à tomber. Durant peut-être 2 ou 3 jours, selon les régions du pays. Alors certes, par intermittence, mais quand même, voire beaucoup. Et des amis omanais m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu le paysage aussi vert dans le village où je séjourne. En n'exagérant rien, hein, ce n'est pas une pelouse à l'européenne, juste quelques bras d'air par-ci, par-là. Mais quand même, dans les médias occidentaux, on a eu l'inquiétude légitime que le changement sur le trône d'Oman allait apporter des troubles, des révoltes parmi les tribus, notamment rebelles dans le sud, hein, la frontière avec le Yémen. Ces tribus qui avaient certes fini par faire allégeance au sultan précédent, mais pas encore au nouveau sultan. Mais il ne s'est rien passé. Le pays est resté parfaitement calme, quoique sous le choc.
C'est le tempérament de ce peuple, vous diriez ?
Oui, je pense que évidemment le tempérament paisible du peuple omanais a joué. Mais l'autre grand facteur, c'était justement les précipitations massives. Que l'avènement du nouveau sultan ait été bien arrosé, c'est certainement un signe du ciel. Hein. Ouais. Comme le diraient les vieux, « Al-Isharat tu'uni al-labiba an al-ibarat ». Pour les gens intelligents, les signes valent beaucoup plus que les mots. Bonne chance au nouveau sultan.
Oui, absolument. Bonne chance à lui. Et puis gardez un peu la pluie chez vous et envoyez-nous le soleil, s'il vous plaît, Joseph. En parlant de signes, on veut bien celui-là. À dimanche prochain.
On essaiera, il a l'ica.
Et merci de cette vision poétique de ce tournant que vit le sultanat d'Oman. C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir encore accompagnés aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous. Cette émission a été réalisée par Marc Fréjean. préparée par Florence Gimalac. Merci à eux. Et Nicolas Caro est rentré dans le studio. La voix est libre. Dans quelques minutes, quel est le programme, Nicolas?
Alors, je reçois Nina Bouraoui pour son dernier roman chez Lattès. Ça s'appelle Otage, au pluriel. Et puis, nous visiterons la bibliothèque de Sylvain Tesson. Ça va être tout un voyage, évidemment.
Ah oui, j'imagine. Merci beaucoup, Nicolas. À tout de suite, donc, pour La voix est libre. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.